RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Osvaldo Piazza et de Dominique Ollagnier, bienvenue dans le podcast After Saint-Etienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts avec aujourd'hui Manu Petit. Salut Manu.
Salut Gilbert, salut Timothée, salut à toutes et toutes.
Et avec Timothée Bellon qui revient de Saint-Etienne comme toujours. Salut Timothée.
Salut à tous. Personne n'appelait l'Ollagnier Dominique. Hein. C'est Bibiche. C'est Bibiche pour tout le monde. Même lui s'appelle Bibiche lui-même.
À Nice, c'était Doumé.
Doumé.
Oui.
Et bah Bibiche à Saint-Etienne.
Très bien. Bon, enfin, son vrai nom, ça reste Dominique Ollagnier quand même.
Je suis même pas sûr qu'il ne l'ait pas changé.
Ah, peut-être. L'évaluation de l'After après la défaite à Rennes, bien sûr, dans quelques instants. Et puis deux débats à suivre. Après le match de Coupe d'Europe et le match du week-end, est-ce que tout de même la situation est inquiétante? Série en cours. Et puis pas un tir en deuxième mi-temps. Eh ouais, est-ce que c'est uniquement la faute de Diony? On va se poser la question dans quelques instants, même tout de suite, dans le podcast After Saint-Etienne. Nous, on démarre évidemment par l'évaluation comme de coutume. Un petit taulier, un petit boulet après le match à Rennes. Timothée, qui t'a vu comme taulier?
Taulier, je mettrais Youssouf, qui comme souvent a été très bon, Zaïdou Youssouf, au milieu de terrain, qui a beaucoup de volume, peut-être un peu moins éclatant aujourd'hui. Et puis il y a le petit Fofana derrière aussi, qui est rentré à la place de Loïc Perrin, qui a fait une grande rentrée. Encore une fois, c'est la jeunesse qui fait du bien à Saint-Etienne.
Ouais, je vais dire Fofana, moi aussi, parce que autant depuis le début de saison, Loïc Perrin me déçoit. Je pense que aussi, s'il est honnête avec lui-même, et je pense qu'il est, il doit se rendre compte qu'il est, il est loin de son niveau affiché ces dernières années. Donc, c'est vrai que Fofana, moi, il m'a bien plu dans sa rentrée. Ouais.
Moukoudi,
fin de ses premiers très bons matchs, ouais. C'est, il a mis du temps. Je pense que ça fait partie de ses défenseurs centraux un peu diesel. Et en jouant petit à petit, il peut élever son niveau et être bon. C'est vrai qu'il a fait du bien après. Ça demande confirmation quand même.
Bon, c'est vrai que quand tu perds, là, en plus, c'était pas un grand match, hein, on va pas se mentir. Trouver un taulier, c'est pas forcément évident. Peut-être plus facile de trouver un boulet, en fait.
Du côté de Saint-Etienne ?
Ouais.
Bah, je l'ai cité, c'est Loïc Perrin. Et pourtant, Dieu sait si ça a été une référence du côté de Saint-Etienne à l'image de Ruffier pendant pas mal d'années. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, c'est l'impression que c'est l'année un petit peu de trop. On le voit vraiment au prix de vitesse sur beaucoup d'actions. Même, je pensais qu'il allait compenser avec sa lecture de jeu, par anticipation, des choses comme ça, l'expérience. Il le fait, mais son physique le rattrape souvent, en fait.
Il s'est d'ailleurs fait mal parce qu'il est en retard. Mm. Moi, je mettrais Claude Puel comme boulet. Je pense que c'est hier que Claude Puel a perdu son totem d'immunité. Ça veut pas dire que tout est acheté, ça veut pas dire que c'est un mauvais coach ou voilà. Mais hier, j'ai pas du tout aimé la façon dont Saint-Etienne est rentré dans la seconde période. Et le coaching a confirmé que la façon dont les joueurs étaient rentrés était due à un discours, à des consignes. C'est-à-dire que décider à la 45e que le nul, ça suffit. Pour moi, quand en plus on a la liberté de pouvoir aller de l'avant parce qu'on est pas trop mal classé en championnat.
Après, il y avait beaucoup d'absents hier quand même. Hein.
Oui, il y avait beaucoup d'absents, mais il n'y avait pas de volonté, pas de velléité. Et puis, je ne cache pas que cette appréciation vient après le match d'hier, mais aussi après le match de Wolfsburg.
De la Gantoise.
De la Gantoise, pardon. Mmh. J'ai un peu du mal à entendre. C'était un match intéressant. On est en progression. On a fait une très grande première période quand on a été éliminé. Quand on joue sa qualification, on joue un match pour la survie, pas un match pour progresser.
Le discours de Puel après le match de la Gantoise, il était quand même difficilement audible, quand même, de dire ouais, c'est bien, on progresse et tout. C'était un match dégueu.
Puis le discours de dire il y avait beaucoup d'absents, excuse-moi, il a un effectif énorme de plus de 30 joueurs. Justement, ça a été une des priorités à son arrivée, d'essayer de mettre de l'ordre là-dedans, de faire un turnover constamment pour donner du temps de jeu à tout le monde. Et moi, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'il y a un 11 qui se dégage. Donc, qu'il y ait des absents, je veux bien, mais des absents majeurs, non, excuse-moi, non.
Puis on parle souvent du fait d'avoir des matchs de coupe et puis des matchs de championnat. On sait que ça ne se joue pas pareil. Et Claude Puel, dans son discours d'après-match face à la Gantoise, tient le discours d'un coach, comme s'il s'était servi de ce match comme d'un match amical de pré-saison, en disant « c'est intéressant par rapport à ce qu'on fournit petit à petit et ce qu'on donne en championnat ». Mmh. Je n'en doute pas une seconde, il a peut-être raison là-dessus. Sauf que quand on joue à Saint-Etienne sa vie en Coupe d'Europe, on ne doit pas jouer un match intelligent, on doit jouer un match de survie avec les valeurs qui vont avec.
Boudbouz, moi c'est mon boulet. Quand est-ce qu'il va enchaîner les bons matchs? Alors il en fait des fois des bons, hein, on va pas.
Il a des éclairs de temps en temps dans un match, mais
quelle irrégularité!
L'image de beaucoup de cadres entre guillemets qui à mon avis doivent se remettre sérieusement en question depuis l'arrivée de Claude Puel, parce qu'on n'est plus avec sous l'air printemps où on était dans un certain confort et qu'on faisait un petit peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a une redistribution des cartes et j'ai le sentiment que certains cadres ne l'ont pas, toujours pas compris.
On enchaîne. Oui, alors on disait première défaite depuis. Alors ok, c'était effectivement une série assez même étonnante hein, finalement depuis son arrivée donc, et le derby il y a maintenant plus d'un mois.
Ça faisait 10 matchs et 12 pour la Saint-Etienne.
Donc c'est quand même pas mal. Mais enfin, malgré tout, quand tu regardes le train du moment, alors il y a eu 0-0 contre Montpellier, le match contre la Gantoise, la défaite d'hier, c'est quand même pas fameux en fait. Quand tu prends un peu de recul sur la production de jeu, sur les performances individuelles, cette série, en fait, elle cachait la misère.
À sa décharge, hein, pour Claude Puel, c'est qu'il a arrêté aussi d'un groupe qui était frappé par la sinistrose. On sentait qu'on ne voyait pas le fond, match après match, on continuait justement à creuser. Donc sa priorité, c'était justement de stopper l'hémorragie, de redonner un petit peu de la confiance grâce à une série de résultats. Alors c'est clair, aujourd'hui, après son arrivée, ça fait plus de deux mois maintenant, on est en droit d'attendre davantage. Mais comme il a fait un turnover quasiment à tous les matchs, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit auparavant, je ne suis pas certain qu'il sache si demain il avait un match qui joue sa survie sur toute la saison. Je serais curieux de voir quel 11 il mettrait.
La série cache la misère
Ouais, la série cache misère. La série, effectivement, ce que dit Manu, il a raison, il fallait une série, il fallait retrouver de la confiance, il fallait retrouver du physique aussi. Mais maintenant, ça commence à faire deux mois qu'il est arrivé. Donc le travail, il commence à avoir eu le temps de le faire. Et je continue à entendre systématiquement en conférence de presse, on partait de très loin,
on est en construction,
le groupe, on est en construction. Ok.
On sera au mois de mai, on sera toujours en construction.
C'est ça, il y a un moment... Alors qu'ils nous disent on ne sera pas opérationnel avant, je ne sais pas, la trêve de Noël, et qu'à ce moment-là, on ne s'attende pas à autre chose. Mais il me semblait quand même que deux mois, ça te laisse le temps de donner du coffre à certains joueurs. Comme l'a dit Manu, il y a 30 joueurs. Donc, ceux que tu ne fais pas jouer, tu peux leur faire du physique. Et inversement, tu peux donner, il y a beaucoup de matchs, donc tu peux donner du rythme aux uns et aux autres. Quand est-ce qu'on aura donc une équipe à 100% aux yeux de Claude Puel, et qu'à ce moment-là, on pourra peut-être espérer et attendre et être exigeant avec Saint-Etienne? On a l'impression qu'on n'a pas le droit d'être exigeant avec Saint-Etienne. Si, quand on est là avec Saint-Etienne, on a le droit d'être exigeant et vite.
Je vais aller dans le sens de Timothée et faire un parallèle à ce qui se passe en Première Ligue. Quand Mourinho hérite d'une situation très négative du côté de Tottenham, où ils étaient incapables de gagner un match à l'extérieur quasiment sur l'année civile, le gars, il arrive, c'est une série de victoires avec des joueurs qui sont en train de renaître, avec des joueurs qui reviennent à leur niveau qui a affiché ces dernières saisons, qui n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes ces derniers mois. Donc oui, il y a eu un réel impact dans le management, mais aussi dans la façon de jouer des joueurs. Pourtant, les systèmes n'ont pas beaucoup évolué. Donc ça te montre que le management, le discours, le message qu'a mis en place Mourinho, il a fonctionné d'entrée, puisqu'on voit des joueurs complètement transfigurés.
Enfin, pardon, mais en termes de qualité intrinsèque de joueurs, Tottenham, tu ne peux pas comparer avec Saint-Etienne.
Il
y a quand même des joueurs de qualité à Saint-Etienne, quoi.
Oui, pas à la hauteur de ce que tu as à Tottenham.
Non, mais je sais, mais je te parle de management.
On parle du quatrième du championnat de France de l'année dernière contre le quatrième du championnat de l'année dernière.
Les gars, vous parlez d'un demi-finaliste, d'un finaliste de Ligue des Champions.
Bon, déjà, on ne parle pas des mêmes budgets, Gilbert, mais je parle d'un point de vue non proportionnel, justement. Si tu mets une comparaison équivalente de Saint-Etienne en termes de budget, en termes de qualité de joueur intrinsèque, je suis désolé, il y a des joueurs à Saint-Etienne qui sont loin de leur niveau.
Ouais, prends-moi un mec de Saint-Etienne que tu mets titulaire à Tottenham.
Non, mais on fait un parallèle, la comparaison, c'est une comparaison frontale.
Exactement, je te parle du management de Mourinho. Lui, sa priorité, la priorité de Mourinho quand il est arrivé aux Spurs.
Je comprends pas non plus Mourinho avec Claude Puel.
Non, mais Gilbert, Mourinho, il avait sa priorité, c'était la même priorité que Claude quand il est arrivé. Stopper l'hémorragie, la sinistrose qui gangrenait ce vestiaire. On en arrivait à ne plus reconnaître ces joueurs, cette équipe qui a fait des merveilles pendant trois saisons.
Alors, juste sur Loïc Perrin. Mine de rien, l'équipe de Claude Puel se posait des questions et finalement s'est dit qu'il a quand même rendu quelques services sympas et il pensait même que ce serait plus compliqué que ça en termes de niveau. En fait, ils ne sont pas si déçus que ça par Loïc Perrin.
Ah, de par ses performances, ouais. Tu veux dire ? Bah, moi, je pense que le premier à être surpris, c'est lui-même. Mais je pense qu'encore une fois, avec tout le respect, j'ai une certaine admiration pour ce garçon, une affection également, par la longévité, puis le fait que ça soit un joueur de club, ce qui était moins rare dans le foot moderne aujourd'hui. Mais s'il est resté à Saint-Étienne pendant aussi longtemps, c'est parce qu'aussi, il répondait présent sur le terrain. Et là, j'ai l'impression que certains joueurs qui étaient un petit peu épargnés ces derniers temps par certains problèmes qui étaient liés d'un point de vue structurel, mais pas que, mais aussi d'un point de vue sportif à Saint-Étienne, bah, je pensais que lui allait survivre, un peu à l'image d'un ruffier, tu vois. Et bah non, il n'a pas survécu. Et encore une fois, quand tu as une intelligence de jeu dans la lecture, dans l'anticipation, à des postes en plus qui sont assez faciles pour anticiper et couper les actions, bah, je trouve que là, on voit qu'il fait vraiment son âge, en fait.
Saint-Étienne n'a pas tiré une fois en deuxième mi-temps au but. Ça, c'est quand même une stat quand même dans le foot. C'est quand même assez rare. Pas un tir en une mi-temps. Est-ce uniquement la faute de Diony ? Bon, alors le pauvre, il s'en prend quand même plein la tronche depuis des mois et des mois. Il n'a pas fait son pire match hein, contre Rennes. Enfin, c'est lui, en l'occurrence, qui était là en pointe. Là. Mais c'est quand même il y a un vrai problème
tu
offensif.
Sais,
bah oui. Alors que dans l'absolu, il y a du
matos. Dans l'animation. Moi, il y a un truc, je regarde Saint-Étienne quasiment tous les matchs. Pour amener de la folie, et là, je pourrais faire référence à ce que tu viens de dire, Timothée, sur le match de Coupe d'Europe de la semaine dernière. Moi, je pensais que les Verts allaient amener de la folie pour ce match décisif, qu'ils allaient disputer ce match au couteau, à la fois dans l'intensité. Alors, ils ont fait beaucoup de courses, c'est une équipe qui court beaucoup, mais souvent qui fait des courses à répétition et qui court un petit peu dans le vent. Mais j'aimerais bien qu'ils courent tous ensemble, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de voir, c'est que le dépassement de fonction, il y a trop de joueurs, pour moi, restent dans leur zone en permanence, il n'y a pas de dépassement de fonction. Si tu veux amener de la folie, je pense que c'est ce qu'attendent aussi les supporters de Saint-Étienne, c'est que si tu veux amener de la confiance et que d'un seul coup, tu veux que certains joueurs progressent ou retrouvent leur niveau, il faut amener de la folie, il faut amener un environnement qui te permette justement de dire, tiens, on ne va pas simplement se contenter à ce qu'on doit faire à chaque fois dans notre mission individuelle sur le terrain en disant « je vais respecter ma zone et puis basta ». Moi, les milieux de terrain, je ne les vois jamais soutenir dans la surface de réparation les attaquants. Je ne vois jamais un dédoublement sur le côté d'un milieu. Pareil pour un attaquant, je ne le vois jamais faire un repli défensif sur un sprint de 30 mètres. Enfin bref, j'aimerais voir des choses que je ne vois jamais du côté de Saint-Étienne à ce niveau-là.
Et je pense que les consignes de Claude Puel sont très... justement, restez dans votre zone, soyons solides. Moi, je suis désolé dans ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que c'était le boulet, c'est qu'il n'y a pas de velléité offensive dans la seconde période. Le changement qu'il fait, il y a un poste pour poste, Nordin Bouanga, et après, à la 80e, il sort Diony pour faire rentrer un milieu de terrain. C'est quand même un message que tu envoies. On finit le match avec, dans l'absolu,
il y a un partout à ce moment-là.
5 défenseurs, 5 milieux de terrain. Oui, il y a un partout, mais il y a un partout. T'es là, Saint-Étienne, t'es à l'extérieur, t'as quand même le droit de vouloir gagner le match. Tout le monde sait qu'un point, ça fait avancer lentement, qu'il vaut mieux essayer d'aller chercher prendre 3 points et une fois de temps en temps que tu vas perdre ton match. Et je trouve qu'il y a beaucoup de frilosité dans ce que fait Claude Puel. Pour ce qui est des joueurs, effectivement, on ne voit pas assez... Alors, Madi Camara est capable de ça, d'être un milieu de terrain qui va aller à l'entrée
Bouanga
de la surface
le fait
de réparation
de Bouanga.
Mais le vrai problème, et t'as tout dit, c'est que chacun reste dans son registre. Bouanga sur son côté, Nordin de l'autre, Diony devant, et Boudbouz, et Kazri. Et les football makers, ils sont où à Saint-Étienne ? Parce que depuis le début de la saison, bon, Kadri est blessé actuellement, mais quand il est sur la pelouse, il n'est pas dans son registre de créateur. Et on a un énorme déficit de création. Parce que Youssouf et Mvila sont des bons joueurs, mais pas des créateurs. Ils récupèrent, ils mettent le ballon sur les ailes. Et Boudbouz rate toutes ses passes. Ça fait, bon, encore une fois, il a fait un match honorable contre la Gantoise. Mais enfin, voilà, cette note technique, elle nous manque. Et je trouve que l'aveu de faiblesse de Saint-Étienne, qui est terrible, et qu'on entend beaucoup à Saint-Étienne, c'est que ce qui nous manque, c'est Rémi Cabella. Quand tu viens à penser que ce qui te manque, c'est Rémi Cabella, c'est que ça sent pas bon.
Ah, il a raison. Techniquement, je trouve, mais c'est pas propre à Saint-Étienne. Hein. S'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1, on l'a vu dans les performances sur la scène européenne. Excuse-moi, même le PSG, quand ils vont jouer à Madrid, d'un point de vue technique, c'est affligeant. La sanction, elle tombe tout de suite. Donc, quand tu deviens médiocre techniquement, et c'est souvent le cas justement sur certains matchs de Ligue 1, eh ben, on compense par de l'intensité, des duels. Donc oui, ça peut plaire à certaines personnes, mais c'est clair que d'un point de vue technique, c'est la meilleure des façons pour gagner un match.
Messieurs, merci beaucoup.
Une petite pensée pour Philippe Masguin, photographe historique de la Saint-Étienne qui nous a quittés ce week-end. On pense très fort à sa famille.
Merci Timothée, merci Manu.
Merci.
Le prochain podcast After Saint-Etienne, eh bien, c'est dès la semaine prochaine. Salut à tous.
RMC.
After Saint-Etienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.